Vous écoutez On lit pour vous.
Pratique anticoncurrentielle, l'Union européenne inflige une gigantesque amende à Google, risquant la colère de Trump. Un texte de l'agence France-Presse, signé Frédéric Pouchot, publié dans Le Devoir du 24 juillet 2026. En sous-titre, le géant technologique américain devra payer 1,4 milliard de dollars canadiens pour abus de position dominante. L'Union européenne a infligé jeudi à Google un total de 890 millions d'euros d'amende, en dollars canadiens 1,43 milliard, pour des atteintes à la concurrence dans la recherche en ligne et au sein du magasin d'applications Google Play, au risque d'une nouvelle crise avec Washington. Ce montant global représente la sanction la plus élevée prononcée par Bruxelles contre une entreprise au titre du règlement européen sur les marchés numériques, une puissante loi européenne visant à réprimer les abus de position dominante des géants de la tech. Dans le détail, Google a été sanctionné à hauteur de 460 millions d'euros pour avoir favorisé ses propres services, tels que les comparateurs de prix, de vol ou d'hôtel, dans les résultats de son moteur de recherche Google Search. S'y ajoute une seconde amende de 430 millions d'euros pour avoir empêché les développeurs utilisant son magasin d'applications, le Play Store, d'orienter les clients vers d'autres points de vente virtuels. Cette pratique, appelée anti-steering, A-N-T-I, trait d'union S-T-E-E-R-I-N-G, est strictement prohibée par le règlement européen sur les marchés numériques. Citation, c'est une décision très importante, a affirmé la vice-présidente de la commission chargée du numérique, Enna Virkkunen, soulignant qu'elle visait, citation, à garantir un terrain de jeu équitable, fin de citation, pour toutes les entreprises en ligne. Le géant technologique américain a de son côté pourfendu cette décision qui va conduire, selon lui, à dégrader des services pourtant prisés des internautes. Citation, « Pour nous y conformer, nous sommes obligés de retirer des fonctionnalités de recherche en temps réel que les Européens apprécient, comme l'affichage des prix instantanés et la disponibilité directe des hôtels, des vols et des restaurants, et se démanteler des protections en matière de sécurité sur Google Play. » Fin de citation, s'est insurgé Kent Walker, président des affaires mondiales de Google, dans une déclaration transmise à l'agence France-Presse. Une citation,
« Prétexte à des représailles ».
Cette nouvelle sanction, même si elle ne représente que 0,22% du chiffre d'affaires mondial de Google, risque d'alimenter la colère de Washington contre la réglementation numérique européenne, accusée par le gouvernement Trump de cibler injustement les champions américains du secteur. Le représentant de la Maison-Blanche pour le commerce, Jameson Greer, a de son côté estimé que cette amende était, citation, « un véritable risque pour le maintien de la stabilité transatlantique ». L'Union européenne affirme régulièrement qu'elle cherche de la stabilité et de la prédictibilité dans nos relations commerciales, mais ce type d'action crée une incertitude majeure pour les exportations américaines de biens et services, a prévenu M. Greer. Fin de citation. À ce propos, 25 membres républicains du Congrès des États-Unis ont écrit cette semaine au président américain pour lui demander d'agir des représailles contre l'Union européenne si elle persistait à exercer, citation, des lois politiques ou pratiques discriminatoires dans le secteur numérique, fin de citation, contre les entreprises américaines. Citation, nous avons le devoir de nous assurer que les lois adoptées par nos institutions souveraines sont pleinement appliquées et respectées, a insisté Teresa Ribera, responsable de la concurrence au sein de la Commission. Cette amende, citation, ne doit pas servir de prétexte à des représailles des États-Unis, fin de citation, a de son côté mis en garde l'eurodéputé allemand Bernd Lange de la SED gauche, affirmant que, citation, ce qui est interdit hors ligne doit l'être aussi en ligne, fin de citation. Google, qui a d'ores et déjà proposé ou instauré des mesures pour tenter de se conformer au règlement européen, va devoir se plier à cette décision dans les 60 jours, sous peine d'amende supplémentaire. Une citation.
Il était grand temps.
Citation. Il était grand temps que la Commission applique la loi. Fin de citation, estimée l'Organisation des consommateurs européennes, BEUC, jugeant que, citation, Google avait limité les choix des consommateurs et rétréci la concurrence. Fin de citation. Autre citation, ces amendes sont de l'argent de poche pour Google. Fin de citation, a raillé Max von Thurn, directeur de l'organisation non gouvernementale Open Markets Institute, exigeant une application beaucoup plus sévère du règlement européen. Précédemment, Bruxelles avait déjà sanctionné Apple et Meta au titre du même règlement, DMA, mais pour des montants inférieurs, 500 et 200 millions d'euros, respectivement. C'est un nouveau revers pour Google qui voit les décisions défavorables s'accumuler en Europe. La semaine dernière, Bruxelles lui a imposé d'ouvrir son système d'exploitation Android à des services d'intelligence artificielle concurrents de son assistant Gemini et de partager les données collectées par Google Search avec ses rivaux. La Commission lui a en outre infligé, en septembre dernier, une amende de 2,95 milliards d'euros pour abus de position dominante dans la publicité en ligne. Fin de ce texte de l'Agence France-Presse, signé Frédéric Pouchot, titré « L'Union européenne inflige une gigantesque amende à Google », risquant la colère de Trump. Texte publié dans Le Devoir du 24 juillet 2026. Ce que la gigantesque amende imposée à Google pourrait changer. Un texte de Jeanne Claveau-Laviolette, publié dans Le Devoir du 24 juillet 2026. En sous-titre, l'Europe veut démontrer que les géants du numérique ne sont pas au-dessus des lois. Nouveau développement dans le bras de fer opposant les États et les géants du Web. L'Union européenne a imposé jeudi une amende de 890 millions d'euros à Google, lui reprochant des pratiques anticoncurrentielles. Cette sanction sera-t-elle suffisante pour changer les pratiques du géant américain? Et quelles leçons pourrait en tirer le Canada? Le Devoir fait le point avec deux juristes. Citation. À la base de cette décision, il y a vraiment un débat plus fondamental sur qui contrôle le produit, puis qui contrôle l'évolution du produit. Fin de citation, explique Pierre Larouche, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Le produit, c'est principalement le moteur de recherche de Google. Lorsque vous entrez des mots-clés dans la barre de recherche, on vous propose des résultats. Concrètement, c'est la présentation de ces résultats qui indispose l'Union européenne, qui accuse Google de favoriser systématiquement ses propres services, achats, hôtels, vols d'avion, résultats sportifs, dans les premiers liens proposés, reléguant au second plan ceux offerts par des compétiteurs. Un stratagème similaire sur son application Google Play lui est aussi reproché. Citation, pour eux, c'est comme une pièce de 10 cents qu'on ne se penche même pas pour ramasser. Fin de citation, professeur Pierre Trudel. Citation, ce n'est pas la première décision qui se rend aussi loin, mais c'est la décision où l'amende est la plus conséquente, explique M. Larouche. Fin de citation. La Commission européenne peut se permettre ces amendes plus élevées, poursuit-il, car son autorité est forte et elle tend, guillemets, à réussir à défendre ses positions devant les tribunaux, fin de citation, si sa décision était portée en appel. Citation. Au Canada, si notre bureau de la concurrence décide de faire la même chose, il aurait plus de difficultés à faire passer sa position parce qu'il est moins solide, fin de citation. Nul n'est au-dessus de la loi. L'amende de 890 millions d'euros, qui équivaut à peu près à 0,22% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise, reste tout de même insignifiante pour Google, nuance Pierre Trudel, professeur associé au département de droit de l'Université de Montréal. Pour eux, c'est comme une pièce de dissens qu'on ne se penche même pas pour ramasser, illustre-t-il, fin de citation. D'après les deux experts, l'objectif de l'Union européenne n'est donc pas d'affaiblir financièrement Google, mais bien de tenter de faire passer un message. Les géants du numérique ne sont pas au-dessus des lois. Citation, « Il y a un souci d'assurer qu'il y a des règles du jeu équitables pour tous les joueurs et qu'ils ne se servent pas de leur position dominante pour empêcher l'émergence d'une concurrence équitable », explique M. Trudel. Autre citation, « Google est tenue de se conformer, ellipse, dans un délai de 60 jours, faute de quoi elle risque des astreintes, soit des sanctions économiques pour chaque jour de non-conformité, pouvant aller jusqu'à 5 % de son chiffre d'affaires mondial », indique la Commission européenne par communiqué. Selon M. Larouche, expert en droit de la concurrence, cette menace vise surtout à faire pression sur Google pour, citation, « qu'elle prenne plus au sérieux la législation européenne », fin de citation, et se conforme à ses exigences. Autre citation, « ça devient une lutte qui va plier en premier », explique-t-il. Ils sont condamnés à s'entendre à un moment donné. Ultimement, il faut que Google change quelque chose. Fin de citation. Toujours d'après lui, trois avenues semblent possibles. Google se conforme pour éviter les sanctions. L'entreprise laisse la facture grimper jusqu'à ce que Bruxelles abandonne ou elle se plie à l'exigence en la transformant en source de revenus. Citation, Google pourrait dire « On est prêt à mettre nos concurrents à égalité, mais notre espace vaut cher, alors ils devront payer », explique-t-il. Risquer la colère américaine. L'amende infligée à Google a été rendue possible en vertu du Digital Markets Act adopté en 2022 par l'Europe. L'existence même de ce puissant outil législatif contrarie fortement le président américain Donald Trump, rappellent les deux experts. Pourrait-il ainsi considérer l'amende comme une attaque envers les États-Unis et donc rétorquer avec de possibles tarifs? C'est une possibilité, estiment messieurs Larouche et Trudel. Citation, « Sous Trump, les États-Unis défendent beaucoup plus les intérêts de leurs entreprises à l'étranger », fait remarquer M. Larouche. Selon lui, la crainte de cette même colère présidentielle explique la « prudence » canadienne. Citation, « Le principal obstacle, c'est l'existence d'une croyance au Canada que si on déplaît à M. Trump, ça va être une catastrophe ». Fin de citation, ajoute pour sa part M. Trudel, citant des reculs récents d'Ottawa sur la taxe sur les services numériques et la loi sur la diffusion continue en ligne. Les deux juristes s'entendent pour dire qu'une action concertée entre puissances moyennes, une piste déjà évoquée par le premier ministre Mark Carney, offrirait un contrepoids plus crédible. Citation, c'est un début, il faut continuer, mais il faut surtout renforcer la capacité des États à agir de façon concertée pour offrir un contrepoids à ces géants dont la puissance est équivalente à celle de plusieurs États mis ensemble, affirme M. Trudel. Et c'est la fin de ce texte titré « Ce que la gigantesque amende imposée à Google pourrait changer », un texte signé Jeanne Claveau-Laviolette et publié dans Le Devoir du 24 juillet 2026.
Faut-il réellement faire 10 000 pas par jour? Un texte de Tara Ael, paru le 28 juillet 2026 dans le magazine National Geographic. Plus on marche, mieux c'est. Et le seuil à dépasser pour en tirer des bénéfices est plus bas que beaucoup le pensent. Dans le comté de Kerry, en Irlande, deux randonneurs s'offrent leur quota de pas en parcourant le Dingleway. Au-delà de 4300 pas, chaque nouveau pas est bénéfique pour votre santé cardiaque, que ce soit à travers un petit supplément de 1000 pas au quotidien ou de longues promenades au cours du week-end. Marcher 9000 à 10 000 pas par jour réduit de plus d'un tiers le risque de mortalité et d'au moins 20 % le risque de maladies cardiovasculaires, mais une légère augmentation même inférieure à ce seuil présente déjà des bénéfices, d'après une étude impliquant plus de 72 000 participants. Toute activité est bonne à prendre. Nous avons constaté que plus le nombre de pas augmente, plus le risque de mortalité et de maladies cardiovasculaires diminue, déclare Matthew Amadi, épidémiologiste à l'Université de Sydney en Australie et co-auteur de l'étude. Le seuil des 10 000 pas est une excellente cible. Mais même si vous n'êtes pas capable de l'atteindre, toute activité permettant d'augmenter votre nombre de pas quotidiens peut avoir un impact considérable sur l'amélioration de votre santé et la diminution du risque de maladie. D'après Ashley Goodwin, spécialiste de l'activité physique au sein des Feinstein Institutes for Medical Research de Manhasset aux États-Unis, cette étude confirme ce que nous savions déjà sur les bienfaits de la marche dans la réduction du risque de maladies cardiovasculaires et de mortalité. Ce que Goodwin trouve particulièrement intéressant dans cette nouvelle étude, c'est la faible différence de bénéfices entre les personnes qui passent un long moment assis chaque jour et celles qui s'assoient moins. C'est vraiment génial, car cela montre qu'il suffit de marcher un peu plus que d'habitude pour obtenir des résultats bénéfiques sur la santé, peu importe le point de départ. De précédentes études avaient montré qu'un plus grand nombre de pas était associé à une meilleure condition cardiaque et à une vie plus longue, alors qu'un corpus de recherche distinct avait mis en évidence le risque accru de maladies cardiovasculaires et de mortalité en cas de sédentarité prolongée. L'étude qui nous intéresse a donc rassemblé ces deux corpus pour déterminer si un supplément de pas quotidien suffisait à contrebalancer les risques associés à la sédentarité, même chez les individus assis une grande partie de la journée. L'équipe d'Amadi a fixé à 10,5 heures par jour le seuil caractérisant une sédentarité élevée, car leurs données montraient que les risques associés au fait de s'asseoir plus longtemps chaque jour commençaient à croître de manière exponentielle. Ils ont comparé les risques de mortalité et de maladies cardiovasculaires associés à différents quotas de pas quotidiens par rapport à une référence de 2200 pas par jour, le maximum pour 5 % de la population étudiée. Chaque pas compte. D'après leurs résultats, les réductions de risque occasionnées par l'augmentation du nombre de pas étaient statistiquement similaires pour les sujets hautement sédentaires et les sujets moins sédentaires. Cependant, l'étude révèle également une relation proportionnelle. Plus une personne effectuait de pas chaque jour, plus son risque de maladie cardiaque ou de décès chutait, et ce, jusqu'au seuil de 9 000 à 9 700 pas quotidiens pour les sujets hautement sédentaires. En réalité, l'étude a constaté des bienfaits pour le cœur chez les sujets hautement sédentaires dès 4 300 pas par jour, seuil à partir duquel le risque de maladie cardiaque diminuait de 10 %. En doublant ce quota pour atteindre 9 700 pas par jour, ces bienfaits étaient multipliés par deux. De la même façon, les personnes hautement sédentaires présentaient une réduction de 20 % du risque de décès à partir de 4 100 pas par jour. Là encore, ce bénéfice était presque multiplié par 2, 39 % lorsque le nombre de pas augmentait pour atteindre 9 000. À partir de 6 000 pas par jour environ, les bienfaits sont identiques pour les individus hautement sédentaires et les individus plus actifs. Le citoyen américain moyen effectue environ 4000 pas par jour, indique Mario Garcia, cardiologue au Montefiore Medical Center de New York, ce qui laisse une belle marge de progression. En France, la moyenne nationale se situe autour de 7000 pas par jour. À l'heure où le télétravail gagne du terrain dans le sillage de la pandémie, il est d'autant plus important de prendre conscience du temps que nous passons à ne pas être physiquement actifs pour essayer de compenser ce manque d'activité par une chose simple, la marche, déclare Garcia. Il précise que ceux qui ont le plus bénéficié de cette marche dans l'étude étaient les plus de 60 ans, probablement parce que la condition physique se perd très rapidement à cet âge. Où trouver ses pas? Pour Amadi, ce qu'il faut retenir de l'étude, c'est la possibilité pour les personnes qui ne peuvent pas réduire leur temps de sédentarité d'obtenir des bénéfices en augmentant simplement leur nombre de pas au quotidien. Avec la prolifération des appareils portables au sein de la population, il est devenu très facile de suivre son nombre de pas quotidiens, indique Amadi. Il n'est toutefois pas nécessaire de passer du jour au lendemain de 2000 à 10 000 pas par jour, précise Goodwin. D'ailleurs, la scientifique mène actuellement une étude qui encourage les participants à augmenter de 1000 pas leur moyenne quotidienne habituelle. D'après une analyse systématique de 17 études publiées en 2020, ce petit supplément de 1000 pas quotidiens suffirait à réduire le risque de maladies cardiaques et de mortalité, toutes causes fondues, pendant 4 à 6 ans. Pour ceux qui n'aiment pas la marche, Goodwin suggère d'autres façons de glaner ses pas supplémentaires. La meilleure activité physique, c'est celle que vous ferez, résume-t-elle. Cela peut prendre la forme d'autres types d'activités ou de pas ajoutés au cours de la journée, par exemple, en garant votre voiture plus loin sur le parking, en prenant les escaliers au lieu de l'ascenseur pour quelques étages, ou en quittant les transports en commun un ou deux arrêts plus tôt pour finir votre trajet à pied. Finalement, comme le fait remarquer Goodwin, 1000 pas supplémentaires ne représentent que 10 minutes de marche, ce qui peut facilement être intégré à la journée classique d'une personne mobile. Une autre façon d'augmenter le nombre de pas est de les comptabiliser sur la semaine au lieu de la journée. Selon Evan Britton, cardiologue au Centre médical de l'Université Vanderbilt, qui étudie depuis des années les bienfaits de nos pas quotidiens, d'autres données issues de cette même étude de population montrent que les Weekend Warriors rivalisent avec les sujets régulièrement actifs en termes de bénéfices récoltés. Ces guerriers du week-end rassemblent les personnes qui condensent sur deux jours l'activité de la semaine. Cependant, la persévérance est essentielle, ajoute-t-il, surtout après l'élan de motivation induit par l'utilisation nouvelle du podomètre, car nous avons tendance à modifier notre comportement lorsque nous nous savons observer. Les données issues d'une étude non publiée, ayant suivi pendant plusieurs années l'activité de ses participants, montrent que seule la moitié des Weekend Warriors parvenaient à maintenir un haut niveau d'activité le week-end à un stade ultérieur. Par ailleurs, en raison de l'étendue limitée des données, Britton reste sceptique quant à la légitimité de l'étude pour clore le débat sur la possibilité de compenser un comportement sédentaire en augmentant le nombre de pas effectués chaque jour. L'idée selon laquelle un suivi de 3 à 7 jours reflèterait un comportement général sur des semaines, des mois ou des années me semble difficile à extrapoler, indique Britton. C'est peut-être vrai pour certains, probablement pas pour tout le monde. Protocole de l'étude. Dans le cadre d'une vaste étude réalisée au Royaume-Uni et toujours en cours, les chercheurs ont fourni à plus de 100 000 adultes un podomètre extrêmement précis à porter au poignet en permanence pendant une semaine. Ils ont ensuite analysé les données des 72 174 participants qui avaient porté l'appareil au moins 3 jours, dont un jour de week-end, pendant au moins 16 heures par jour, y compris la nuit. La moyenne d'âge des participants était de 61 ans et les chercheurs ont évalué le critère de maladie cardiovasculaire et de décès pendant une moyenne de 7 ans. Ils ont ensuite ajusté leur analyse pour refléter les différences entre les participants, notamment l'âge, le sexe, l'origine ethnique, le niveau d'éducation, l'usage du tabac, la consommation d'alcool, la quantité de fruits et de légumes par jour, les antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires ou de cancer, le nombre d'heures de sommeil par nuit, l'utilisation d'insuline pour les diabétiques et le recours à des médicaments contre l'excès de cholestérol ou l'hypertension artérielle. Parfois, on ne sait pas si une personne qui fait plus d'activité physique présente de meilleurs résultats grâce à cette activité physique ou uniquement parce qu'elle souffre moins de diabète, d'hypercholestérolémie, d'hypertension artérielle ou d'autres facteurs qui augmentent le risque d'événements cardiovasculaires, indique Garcia. Cette étude a tenu compte de ces variables, précise-t-il. En revanche, les chercheurs n'ont pas pu tenir compte d'un potentiel changement du niveau d'activité des participants dans les années qui ont suivi, reconnaît Amadi. Ils ont tout de même examiné les données d'un sous-groupe de participants qui ont à nouveau porté les podomètres 2 à 4 ans plus tard. Leur niveau d'activité était resté stable. Cela ne signifie pas pour autant que les niveaux d'activité de l'ensemble de la population sont restés stables au fil du temps, indique Britton. Malgré cette limitation, il rejoint Amadi sur le point fort de l'étude. Plus on marche, mieux c'est. Et le seuil à dépasser pour en tirer des bénéfices est plus bas que beaucoup le pensent, conclut Britton. Et ça, c'est une source de motivation. C'était « Faut-il réellement faire 10 000 pas par jour ?» un texte de Tara Ahel, paru le 28 juillet 2026 dans le magazine National Geographic.